Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi le café du matin rend vraiment plus heureux, selon la science? Un texte d'Oriane Polge, paru le 25 août 2025 dans Science et Vie. Alors que 80% des adultes consomment quotidiennement des boissons caféinées, les scientifiques commencent à mieux comprendre les liens entre ces habitudes et nos mécanismes cérébraux liés à l'énergie et à la satisfaction. Il suffit d'un arôme pour évoquer la chaleur d'un matin ordinaire, la promesse d'un nouveau départ. Le café s'est imposé comme le compagnon fidèle du réveil, bien au-delà d'un simple stimulant. Si ce geste quotidien procure tant de réconfort, ce n'est pas seulement une question de goût ou de routine. Les effets du café sur l'humeur commencent à livrer leurs secrets et la science s'y intéresse de près. Le café, un rituel matinal universel. Chaque matin, des milliards de personnes partagent, sans le savoir, un même geste. Si ce rituel est si ancré, ce n'est pas qu'une question de goût ou d'habitude. C'est aussi une affaire de cerveau. Une étude menée par les universités de Bielefeld et Warwick sur plus de 230 jeunes adultes a révélé que les émotions positives, comme l'enthousiasme ou le sentiment de bien-être, étaient significativement renforcées après l'ingestion de café le matin. Ces résultats ne sont pas issus d'un laboratoire fermé. Les participants ont été suivis dans leur quotidien grâce à une application qui leur demandait de noter leur humeur 7 fois par jour en précisant s'ils avaient bu une boisson caféinée dans les 90 minutes précédentes. Ce protocole, connu sous le nom de « méthode d'échantillonnage de l'expérience », permet une meilleure validité écologique. Les chercheurs ont observé que le lien entre caféine et humeur était particulièrement fort dans les 2h30 suivant le réveil. Passé ce délai, les effets positifs s'atténuent pour réapparaître légèrement en fin de journée. Cette régularité donne un éclairage nouveau sur la dimension biologique de ce petit plaisir matinal. Les effets du café sur l'humeur dépendent de l'heure. Pourquoi la caféine agit-elle plus fortement le matin? Une partie de l'explication se trouve dans notre chronobiologie. Pendant la nuit, notre niveau d'adénosine augmente. Cette molécule ralentit l'activité neuronale et favorise le sommeil. En bloquant les récepteurs à l'adénosine, la caféine provoque une libération accrue de dopamine et de noradrénaline, ce qui augmente l'éveil et favorise une humeur plus positive. L'effet est d'autant plus marqué que l'organisme sort d'un long jeûne caféiné, ce qui est souvent le cas au réveil. Il est aussi possible que le café matinal ait un impact psychologique plus fort. Le simple fait d'anticiper ce moment de réconfort pourrait déclencher un effet placebo renforcé, boostant l'effet chimique de la caféine. Par ailleurs, selon l'étude publiée dans Scientific Reports, ce pic de bien-être ne dépend ni de l'intensité de la consommation habituelle, ni de la qualité du sommeil, ni même de l'anxiété ou d'un état dépressif préexistant. C'est une réponse quasi universelle. Les auteurs de l'étude soulignent aussi que le café semble davantage renforcer les émotions positives qu'il ne réduit les émotions négatives. Par exemple, il augmente la sensation de contentement, mais n'influe pas significativement sur l'anxiété. Cela suggère que la caféine agit comme un amplificateur d'émotions plaisantes plutôt que comme un anxiolytique. Un mécanisme cérébral qui ne se limite pas au goût. Ce que confirme cette recherche, c'est que les effets du café sur l'humeur ne relèvent pas uniquement d'un conditionnement ou d'un effet de sevrage inversé. Même les personnes peu dépendantes à la caféine ressentent un impact positif, ce qui contredit la théorie selon laquelle seul le soulagement des symptômes de manque serait à l'œuvre. Un autre facteur entre en jeu, le contexte social. Curieusement, les bénéfices émotionnels du café se révélaient moins intenses lorsque les participants étaient entourés d'autres personnes. Cela peut s'expliquer par le fait que la stimulation sociale agit déjà comme un levier d'activation émotionnelle, réduisant la marge d'impact du café. À l'inverse, lorsque les sujets se déclaraient plus fatigués que d'habitude, la caféine déclenchait une amélioration plus nette de leur état d'esprit. Les chercheurs de Bielefeld insistent tout de même sur les limites de la caféine. Si elle améliore temporairement l'humeur et la vigilance, elle peut perturber le sommeil si elle est consommée en fin de journée. Et une consommation excessive reste associée à des risques connus comme l'irritabilité ou la dépendance. Cela dit, ces effets secondaires ne sont apparus que chez une minorité d'individus dans les travaux relayés par SciTech Daily et ne remettaient pas en cause le lien positif entre café et humeur matinale. Ainsi, la science confirme ce que l'instinct pressentait. Le café, pris au bon moment, est plus qu'une boisson. Il agit comme un catalyseur d'énergie et de bonne humeur, un véritable levier biologique et émotionnel pour bien démarrer la journée. C'était « Pourquoi le café du matin rend vraiment plus heureux, selon la science? » un texte d'Oriane Polge, paru le 25 août 2025 dans Science et Vie.
Francophonie des Amériques, une mosaïque en pleine construction. Un texte de Levo I. Wong, paru le 13 juillet 2025 dans l'Express.ca. Réuni à Vancouver pour une université d'été, des francophones venus de 10 pays ont fait entendre leur voix et témoigné de la présence bien vivante de la francophonie des Amériques. Dans le cadre de la 7e édition de l'Université d'été sur la francophonie des Amériques, plus de 75 personnes se sont réunies à l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique du 16 au 20 juin pour réfléchir ensemble à la présence linguistique, culturelle et économique de la francophonie sur le continent américain. Organisée par le Centre de la francophonie des Amériques, CFA, depuis 2010, l'événement avait cette année pour thème « Les espaces francophones ». Tous les 2 ans. L'Université d'été sur la francophonie des Amériques a lieu tous les 2 ans. Elle a déjà été accueillie par l'Université Laval, le campus Saint-Jean et l'Université de Louisiane, à Lafayette, aux États-Unis. Elle réunit des étudiants du cycle supérieur et des professionnels provenant à part égale du Canada et des autres pays des Amériques. Le coût d'un tel événement s'élève à environ 200 000 $, financé conjointement par l'établissement hôte et le CFA, avec le soutien de partenaires comme Patrimoine canadien, l'Organisation internationale de la francophonie, l'ACFAS et d'autres organismes. Briser l'isolement et l'invisibilité. D'après la directrice générale adjointe et directrice de la programmation au CFA, Flavie Isabelle Hadde, la formation a été très nourrissante, offrant aux personnes participantes une occasion de réseauter. C'est justement un grand atout pour ma profession de pouvoir collaborer avec des collègues des autres pays qui passent par la même situation que moi, témoigne Hélène Andrade, professeure de français langue étrangère au Brésil. Elle a retrouvé à Vancouver des collègues du Mexique et du Chili qui vivent des défis similaires pour connecter leurs élèves à la culture francophone locale. Étienne Rivard, professeur agrégé de géographie à l'Université de Saint-Boniface au Manitoba, confirme que les réseaux, qu'ils soient physiques ou numériques, sont essentiels pour les communautés, car ils permettent de créer des liens et de rompre le sentiment de solitude. En Amérique latine, poursuit-il, les francophones ou les passionnés de français se sentent souvent isolés. Il souligne que la capacité et le désir de parler français dans les Amériques sont plus importants qu'on ne le pense, mais que ces personnes et communautés restent souvent invisibles. Dans sa région, proche de Sao Paulo, Hélène Andrade constate que les espaces francophones sont très rares et donc on doit les créer. Au-delà de la géographie et la langue, il faut que cette francophonie des Amériques émerge, soit connue. Plus elle est connue, plus elle va être étudiée. Plus elle va être documentée, plus ça va nous donner des outils pour qu'elle soit vivante, insiste Flavie Isabelle Hadde. Hélène Andrade, qui a fait sa formation en France, souligne l'importance de sentir cette culture francophone ici, sur le continent américain, et d'oublier un peu la France métropole. La francophonie, c'est une conception beaucoup plus large que la langue, ajoute-t-elle. Étienne Rivard, pour sa part, insiste sur l'importance de reconnaître la diversité des façons de parler et de ne pas laisser l'insécurité linguistique freiner l'expression en français. Dans un monde dominé par l'anglais, une alliance entre les autres langues importantes lui semble essentielle. La mission continue. Pour Flavie Isabelle Hadde, le succès de ces universités d'été témoigne d'un besoin croissant. Elle rappelle aussi l'existence d'autres initiatives comme les programmes de mobilité des chercheurs de l'Agence universitaire de la francophonie et le programme des futurs leaders dans les Amériques, porté par le gouvernement fédéral canadien. Développer plus d'occasions de ce type pour faire rayonner les connaissances de la francophonie des Amériques et créer des liens entre les membres de la communauté reste essentiel, appuie Étienne Rivard. Hélène Andrade, de son côté, suggère pour les prochaines éditions d'aborder davantage la francophonie dans un contexte de concurrence linguistique et de plurilinguisme dans les Amériques. Pour elle, la francophonie est bien plus vaste que celle habituellement citée, mais demeure souvent méconnue. C'était « Francophonie des Amériques, une mosaïque en pleine construction ». Un texte de Leiwu Ai Wong, paru le 13 juillet 2025 dans l'Express.ca.
Merci de m'avoir appris à sacrer avec style. Un texte de Télison Aurélien, paru le 20 juillet 2025 dans la presse. Aujourd'hui, j'ai pris une claque. Pas une vraie. Une claque existentielle. Celle qui t'arrête net et te fait dire « Mon gars, t'es chanceux en sacrament ». Je lisais les nouvelles en buvant mon café trop cher. J'ai vu ces images d'Haïtiens aux États-Unis coincés dans une tempête qu'ils n'ont pas provoquée. Menacés, stigmatisés, traités comme des indésirables, alors qu'ils veulent juste vivre. Puis j'ai repensé à Haïti, mon premier chez moi, un pays pris en otage, pas seulement par les gangs, mais aussi par ceux en cravate qui pillent avec des stylos et des comptes offshore. Pendant ce temps, des centaines de milliers d'Haïtiens vivent aux États-Unis sur un fil d'espoir qui s'effiloche. Et moi, je suis ici, en sécurité, avec un passeport qui ne me fait pas passer pour un suspect. Une éducation abordable, des soins de santé qui soignent, même si c'est long. Une vie. Je suis arrivée comme bien d'autres, une valise pleine de rêves et de peurs. J'ai découvert l'hiver, comme on découvre un ennemi sournois. Le premier hiver, j'étais un popsicle haïtien à moins 30 degrés Celsius. Mais dans ce froid, j'ai aussi rencontré la chaleur humaine. Un voisin m'a appris à booster ma batterie. Une dame m'a expliqué la poutine. Des collègues m'ont invité à mon premier party de Noël. Un Québécois sou, j'ai compris, c'est un poète incompris qui chante du beau dommage. Et puis, il y a le Québec. Pas juste une province, un état d'esprit. Montréal, c'est un monde. Mais les régions... C'est là qu'on découvre la vraie âme québécoise. Chaque village a son accent, son histoire, son accueil. J'ai rencontré des gens curieux, bienveillants, des régions fières, enracinées. Le Québec, c'est les nids de poules, les loyers fous, le système de santé brisé, oui, mais c'est aussi un endroit où je ne me suis jamais sentie aussi respectée. Mon cœur accroché à un lampadaire. J'ai pu étudier, voter, travailler, critiquer, bâtir. J'ai appris à sacrer avec style, à dire merci avec le cœur. Et même si je vis en Ontario maintenant, mon cœur est resté accroché à un lampadaire du boulevard Saint-Laurent. Merci au Québec, merci pour les débats linguistiques, les fêtes de village, les voisins qui t'aident à pelleter. Merci pour la liberté, la vraie, celle d'exister, d'espérer. Parce qu'ailleurs, espérer, c'est dangereux. Ici, c'est normal. Je me souviens de tout, de mes premières années, du froid qui pique, du droit de vote, de la première tourtière, du premier sacre bien placé, de toutes ces petites choses qui font qu'on devient d'ici, même si on vient d'ailleurs. J'ai croisé des racistes, bien sûr, mais c'est rare. La majorité s'en fout d'où je viens, tant que je fais ma part, que je chiale contre la météo avec eux. Et c'est précieux, parce qu'on oublie vite. On tient tout pour acquis. On râle contre Hydro-Québec, contre la neige, contre les taxes. Mais ailleurs, c'est la peur qui tombe du ciel. Ailleurs, l'impôt ne paie pas l'école. Il engraisse les bandits. Ici, j'ai le droit d'espérer. Et ça, c'est un luxe. Alors merci pour tout. Pour les printemps qui ressemblent à des résurrections, pour les soirées à sacrer autour d'un feu, pour les amis fidèles, les collègues accueillants, pour cette terre qui m'a offert une place sans même me connaître. Si un jour on me demande si je suis Québécois, ben oui, Carlis. C'était « Merci de m'avoir appris à sacrer avec style », un texte de Thélison Aurélien, paru le 20 juillet 2025 dans la presse.
Sainte Euphémie, une sainte du top 40. Un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 15 juillet 2025 dans la presse. Malgré les défis causés par la dévalorisation, Sainte Euphémie attire de nouveaux résidents en quête de tranquillité. Sainte Euphémie sur Rivière-du-Sud n'est pas le village le plus passant. Situé un peu à l'écart, entre les routes 283 et 281, cette petite municipalité de la MRC de Montmagny brille par son calme et sa tranquillité. Le jour de notre visite, on n'a croisé que deux personnes dans la rue, ainsi qu'un type sur un balcon avec son chien. La région immédiate compte peu d'industries et de moins en moins d'agriculture ou de foresterie. Quant au dépanneur local, il a fermé ses portes. Idem pour le poste à essence. On est dévalorisé, confie l'adjoint au maire, Steve Laprise, un ancien militaire qui est revenu vivre sur les lieux de son enfance. Quand j'étais jeune, c'était plus dynamique. On avait même trois clubs de hockey. Signe des temps, l'église a été désacralisée et rebaptisée l'Héritage, un grand pas sur le plan symbolique. C'est un dossier émotif, complexe et dispendieux, souligne M. Laprise. Il nous explique que les avis sont très partagés en ce qui concerne l'avenir du bâtiment. Certains voudraient le mettre à terre, d'autres le conserver. Mais il faut de l'argent pour l'entretien et sa valeur patrimoniale n'est pas suffisante pour justifier ses subventions. La bonne nouvelle, c'est que l'endroit sert toujours. Une fois par mois, la municipalité organise à l'héritage des 5 à 7 pour réunir le monde et renforcer la vie sociale. À droite de l'entrée, on a d'ailleurs installé un bar pour ces rencontres informelles, ce qui, on en convient, est un peu bizarre au premier coup d'œil. Un peu de vin de messe avec votre bière? Malgré ces défis, Sainte-Euphémie demeure un endroit charmant et paisible. C'est sans doute pourquoi la municipalité grossit au lieu de rapetisser. En un an, la population serait passée de 307 à 387 personnes. « Pas énorme, mais beaucoup pour nous », lance M. Laprise. Selon le maire adjoint, ces nouveaux résidents viennent d'aussi loin que Québec, Montréal et même la France. Certains ont acheté un lopin de terre. Beaucoup profitent des avantages du télétravail. La plupart ont une chose en commun. Ils sont venus pour la tranquillité, note M. Laprise. Tout le défi est de les intégrer au tissu social et à la réalité de la vie en région. D'ailleurs, c'est aussi pour cette raison qu'on a organisé ces 5 à 7 dans l'ancienne église. Exercice louable s'il en est, mais pas 100% efficace, au dire de Jean-Claude Giroux, 81 ans, secrétaire trésorier de la fabrique. Ça en fait sortir quelques-uns, lance-t-il, évitant de terminer sa phrase. Qu'importe ces petits bémols, Sainte-Euphémie vit un discret second souffle. À preuve, on a même sondé les citoyens pour savoir s'ils voulaient d'un nouveau dépanneur. Au moment où ces lignes étaient écrites, le résultat n'était pas encore connu. Miracle dans le tombeau. La paroisse de Sainte-Euphémie aurait été fondée officiellement en 1907. Son nom viendrait d'une certaine Euphémie Bernier, qui était rien de moins que la maman du premier curé en résidence, Joseph Westland Proux. Pour ce qui est d'Euphémie, la sainte, il faut qu'on vous raconte. Parce qu'ici, c'est du sérieux. Selon Wikipédia, Sainte Euphémie de Chalcédoine est ce qu'on appelle une mégalomartyre. Les experts interrogés par la presse ont avoué ne pas connaître ce terme, mais conviennent qu'il traduit bien l'importance du personnage. Cela veut dire qu'elle est significative. En gros, elle est dans le top 40, explique Robin Janssen, professeur de théologie à l'Université de Notre-Dame. Qu'a-t-elle donc fait pour figurer dans ce palmarès? Eh bien, cela se passe en deux temps. D'abord, sa mort vers 305, sous le règne de l'empereur Dioclétien. Ensuite, son miracle, survenu en 451. Condamnée pour ses croyances religieuses, Euphémie est livrée aux bêtes sauvages après avoir été torturée. Mais surprise, celles-ci s'adoucissent et commencent à lécher ses plaies. Par la suite, les versions diffèrent. La pauvre jeune femme sera soit transpercée d'une lance, soit décapitée, soit mordue par un ours, ce qui l'achèvera. Et voilà qu'Euphémie refait parler d'elle 146 ans plus tard, lors du 4e concile œcuménique qui a lieu dans sa ville natale de Chalcédoine, aujourd'hui un quartier d'Istanbul. Il faut savoir que cette importante assemblée a lieu dans la basilique où se trouve son tombeau. Plusieurs questions théologiques sont à l'ordre du jour, dont celle de la double nature du Christ. 100% Dieu ou Dieu et homme tout à la fois? Faute d'un consensus sur ce sujet crucial, on demande à Dieu de trancher. Les deux camps déposent dans le tombeau de Sainte Euphémie des rouleaux contenant leur profession de foi. Après 8 jours de prière, quand on rouvre le tombeau, la thèse hérétique, 100% Dieu, se trouve dans la poussière au pied de la sainte, tandis que la thèse orthodoxe, à la fois homme et Dieu, repose en brillant sur sa poitrine, prête à entrer dans son cœur. La réponse est assez claire. D'avoir aidé le Concile à choisir un dogme qui est fondamental jusqu'à aujourd'hui pour l'Église catholique et pour les Églises chrétiennes, c'est ce qui la rend tout à fait importante. Selon Sébastien Doane, professeur d'études bibliques à l'Université Laval. Selon la légende, un séisme de grande magnitude frappa Chalcédoine au moment de la mort d'Euphémie, ce qui en fait aujourd'hui la sainte protectrice des tremblements de terre. Les reliques de celle qui est plus volontiers associée au dogme orthodoxe que catholique se trouveraient aujourd'hui principalement à l'église qui porte son nom, à Rovinj, en Croatie. Mais d'autres petits bouts seraient conservés à l'église Saint-Georges du Patriarcat, à Constantinople et à Ravenne, en Italie. Contrairement à l'église de Sainte-Euphémie sur Rivière du Sud, il n'y a pas de barre en entrant à droite. Sainte-Euphémie sur Rivière du Sud. Année de fondation, 1907. Nombre d'habitants, 387. Point d'intérêt, à la sortie du village, un petit sentier mène aux cascades de la Loutre. Situé dans le parc régional des Appalaches, ce secret bien gardé est un incontournable dans la région. C'était Sainte Euphémie, une sainte du top 40. Un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 15 juillet 2025 dans La Presse.